Cours M4 MA001, Histoire culturelle de l'Occident contemporain, séance 10, enregistrement numéro 2. Je disais donc à la fin du premier enregistrement que on pouvait relire cette histoire intellectuelle française des années 60 aux années 90 sous un angle un peu différent qui est celui des rapports entre intellectuels et médias. On a pu dire que la France, à partir des années 60, entrait dans un nouvel âge ou une nouvelle ère médiatique. Et de fait, les chiffres sont relativement éloquents, puisque de 1960 à 1970, en 10 ans, le taux d'équipement des ménages en poste de télévision passe de 13% à 70%. La quasi-totalité des foyers sont équipés en télévision au seuil des années 80. Quant à la radio, 96% des foyers sont équipés en 1973, au début des années 70. Parallèlement à cet essor des médias audiovisuels, la lecture des quotidiens s'effondre au cours de la période. Selon les chiffres et les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français menées par le ministère de la Culture, 55% des Français lisaient encore un quotidien en 1973. Ils ne sont plus que 46% à le faire en 1981. Aujourd'hui, enfin dans la dernière enquête que l'on connaît, date de 2008, il n'était plus que 29% à lire un quotidien. Le livre et la lecture de livres donc reculent également. En 1973, toujours selon ces enquêtes sur les pratiques culturelles françaises, 20% des Français pouvaient être considérés comme de gros lecteurs, c'est-à-dire qu'ils lisaient au moins 20 livres par an. Il n'était plus que 16% au début des années 2000. Je n'ai pas de chiffres intermédiaires, je ne les ai pas notés. Or, comme le souligne à juste titre l'historien Christian Delporte, les idées sont tributaires des modes de consommation médiatique. C'est également ce que disait sous une autre forme Régis Debray dans ses écrits, dans ses travaux sur la médiologie. Et cette perte de la puissance de l'imprimé se répercute assez directement sur le monde intellectuel. Dans un premier temps, toutefois, et qui dure donc jusqu'aux années 90, qui comprend la fin de notre période, l'imprimé ne recule pas sur tous les fronts, on peut même dire que de nouveaux types de presse apparaissent qui remplacent ceux que les évolutions de la consommation frappent d'obsolescence. La transformation de deux titres de la presse politique périodique fondée au seuil des années 50, l'Observateur politique et littéraire, qui devient France Observateur en 1954, et l'Express, fondée en 1953, leur transformation, donc la transformation de ces deux périodiques politiques en news magazine, sur le modèle américain au milieu des années 60, représente de ce point de vue un cas d'adaptation assez intéressant. Donc, deux hebdomadaires d'actualité politique qui avaient été créés pour répondre en quelque sorte aux questions brûlantes du moment, la question du neutralisme. En 1950, la guerre d'Indochine et soutien à Pierre Mendès-France en 1953, qui vont se transformer donc en magazine à l'américaine, avec des articles plus courts, très illustrés, beaucoup d'articles de société, mais aussi avec une bonne dose de journalisme à la française, c'est-à-dire qui privilégie le commentaire sur l'information. Et dans les deux cas, le monde intellectuel va être étroitement associé à cette métamorphose. Si je prends le cas de France Observateur, c'est un journal qui s'adressait à tous ceux qui étaient de gauche sans être pour autant staliniens, donc des mendésistes aux communistes en rupture de ban, de la gauche chrétienne au PSU, ce qui quand même faisait pas mal de monde. Un noyau initial rejoint au milieu des années 60 par quelques transfuges en provenance de l'Express, dont Jean Daniel, qui va être, disons, l'un des dirigeants principaux du journal à partir des années 80, un journaliste qui vient d'ailleurs de décéder hein, l'année dernière à l'âge de 99 ans. Jean Daniel qui va réussir à faire du Nouvel Observateur le lieu de convergence des intellectuels de la gauche non communiste en plaçant l'hebdomadaire sous le double patronage de Jean-Paul Sartre et de Pierre Mendès-France. Beaucoup d'intellectuels vont participer à ce journal, vont y écrire plus ou moins régulièrement, de François Furet à Marguerite Duras, d'Edgar Morin à Jacques Julliard. Beaucoup d'universitaires, parmi eux les représentants les plus en vue des sciences sociales et humaines, historiens et sociologues en tête, un profil socio-professionnel de l'intellectuel qui va changer au cours des années 60-70, marqué par l'explosion des effectifs à l'université, tant du côté des enseignants que des étudiants qui vont fournir les gros bataillons des lecteurs du Nouvel Observateur ou du Nouvel Obs, ainsi qu'on va l'appeler familièrement. Mais aussi beaucoup d'intellectuels qui écrivent dans les maisons d'édition Gallimard, Seuil ou Grasset. La suite est un peu moins brillante. L'arrivée de la gauche socialiste au pouvoir dans les années 80 va desservir l'hebdomadaire, va desservir le Nouvel Obs, qui rassemble la plupart des intellectuels proches de cette famille politique donc parvenue au pouvoir. Et le choc du réel, le choc de l'exercice du pouvoir est rude pour ces intellectuels qui vont s'éloigner ou se taire en même temps que le lectorat du Nouvel Observateur avoir tendance à diminuer. Au contraire, l'Express, dont s'était détourné bon nombre d'intellectuels après ses premières années, retrouve des couleurs au début des années 80. L'Express va incarner ce renouveau, ce regain des idées libérales, sous la conduite de Jean-François Revel, autour de la figure tutélaire de Raymond Aron. Et plus encore que le Nouvel Obs, l'Express met en avant la figure de l'intellectuel expert, qui cherche moins à faire la révolution au nom de l'universel ou du prolétariat qu'à proposer d'utiles réformes à partir d'un savoir spécialisé. Ces deux grands hebdomadaires, auxquels on peut ajouter l'événement du jeudi, créé en 1984 par un journaliste intellectuel, Jean-François Kahn, on peut ajouter également Le Figaro Magazine, qui met en orbite les idées de la nouvelle droite, autour notamment d'Alain de Benoist, les suppléments littéraires des grands quotidiens, Le Monde des livres, Le Figaro littéraire, ou encore les périodiques littéraires, tels que Le Magazine littéraire, créé en 1966, qui devient vraiment important dans les années 80. Voire les quotidiens eux-mêmes, Le Monde, Le Figaro, Libération, qui offrent des tribunes, parfois collectives, sous forme de pétitions ou de lettres ouvertes aux intellectuels. Tous ces organes de presse donc, participent à la vie intellectuelle, au moins autant que les revues universitaires ou même non universitaires, mais relativement spécialisées. Et tous ces organes de presse vont se pencher avec inquiétude ou sollicitude au cours des années 80 sur les intellectuels dont on annonce le déclin, voire la disparition, en particulier après les décès coup sur coup, donc entre la fin des années 70 et début des années 80, de certaines figures de proue du monde intellectuel, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Raymond Aron, qui tous disparaissent en l'espace de quelques années. Et donc il y a une vraie interrogation sur finalement que deviennent les intellectuels? Existe-t-il encore des intellectuels? Quel peut être leur rôle dans ces années 80? C'est autour de ces questions-là que qu'est lancée une nouvelle revue intellectuelle qui s'appelle Le Débat, lancée par l'historien Pierre Nora, Nora, en 1980. Et significativement, hein, la question, la question qui est posée par le premier numéro de cette nouvelle revue, c'est que peuvent les intellectuels? C'est d'ailleurs aussi significativement, peu d'années après ces différentes disparitions, que l'histoire culturelle s'empare à son tour des intellectuels. L'ouvrage en forme de manuel publié par deux historiens, par deux jeunes historiens à l'époque, Pascal Horry et Jean-François Sirenelli, porte sur les intellectuels en France. Il est publié en 1986, comme si quelque sorte, au milieu des années 80, le temps était venu de dresser le bilan d'une histoire en passe de s'achever. On voit se multiplier les enquêtes de la presse sur les intellectuels à partir du milieu des années 70 et surtout dans les années 80, comme pour s'assurer que oui, il reste bien les intellectuels vivants. Ces enquêtes prennent parfois la forme de palmarès. L'événement du jeudi, par exemple, fait sa une sur la pensée en France aujourd'hui en septembre 1988, avant de titrer sur le pouvoir intellectuel en France, reprenant un titre de Régis Debray de 1979. Le Monde des livres convoque à intervalles réguliers des intellectuels pour parler des intellectuels. Le magazine littéraire propose des numéros sur la crise des sciences humaines, sur 10 ans de philosophie en France, sur le rôle des intellectuels. Il présente en 1987 les meilleurs intellectuels français de cette fin de siècle. Et on peut trouver d'autres exemples, je pense notamment au magazine Lire, qui en 1981 avait procédé à un référendum sur les 42 premiers intellectuels. Pourquoi 42, pourquoi pas 40 ou pourquoi pas 50, on ne sait pas bien. Mais donc 42 premiers intellectuels. Donc la presse généraliste ou spécialisée fait de l'intellectuel non seulement. Enfin, utilise l'intellectuel comme force supplétive, je dirais, de leur rédaction, mais aussi donc comme objet d'étude de leur numéro. Cette forme de classement, de palmarès, de jugement, doit beaucoup aux logiques du marché éditorial, lequel a besoin de vedettes reconnues par le public pour fonctionner. Et cette forme de jugement installe plus fortement que dans les décennies précédentes la figure de l'intellectuel médiatique. C'est cette figure que Régis Debray prend pour cible dans son livre de 1979, Le pouvoir intellectuel en France. Il vise plus particulièrement ceux que les médias ont nommés, hein, j'ai parlé de nouvelles littéraires, ont nommé les nouveaux philosophes. Dont il dénonce l'absence d'œuvre, en fait, il dénonce des intellectuels sans œuvre, qui, grâce à leur réseau dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels, auraient accédé rapidement à une notoriété indue et à des ventes que n'approcheraient pas les vrais intellectuels. Donc il y a une différence que fait Debray entre les vrais intellectuels dont il est, évidemment, et les faux que sont les nouveaux philosophes. Alors on pourrait accuser Régis Debray, et d'ailleurs ses adversaires ne vont pas s'en priver, de jalousie et d'aigreur, mais le propos est quand même plus profond que ça. Ce que constate et déplore Debray dans ce livre, c'est un changement dans les sources de la puissance intellectuelle. Non plus l'œuvre, mais le brio et les réseaux médiatiques. Non plus l'écrit, mais l'écran de télévision, comme outil de légitimation et de consécration. En fait, pour Debray, la nouvelle philosophie incarnée par Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la logistique sur laquelle elle s'appuie, la transformation de la pensée en produit publicitaire, la capacité de BHL et consorts de mobiliser les médias, d'utiliser leur réseau pour diffuser et imposer leurs idées, aussi indigentes soient-elles. Les médias commandent à l'édition qui commande à l'université, dit-il dans ce livre de 1979. Dans son Histoire de l'édition française depuis 1945, Pascal Fouché a la même analyse, hein, le vedettariat par l'entremise de la télévision conditionne désormais l'univers éditorial des sciences sociales. L'essayisme hâtif, comme il l'écrit, allait dans une certaine mesure porter préjudice aux travaux de fond, plus obscurs mais néanmoins décisifs. De fait, si la presse écrite a créé les nouveaux philosophes, donc en particulier les nouvelles littéraires qui lancent l'expression comme une sorte de produit publicitaire, on peut également mentionner le Nouvel Observateur, dans lequel Bernard-Henri Lévy écrit un article très élogieux du livre de Glucksmann, c'est la télévision quand même qui a rendu ces nouveaux philosophes familiers du grand public, et en particulier l'émission Apostrophe. Le 27 mai 1977, Bernard Pivot convie sur le plateau de l'émission Apostrophe, donc sur la deuxième chaîne de la télévision publique, Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann pour débattre de la question « Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche ?» Bon, sont également invités Maurice Clavel, et François Aubral, Xavier Delcourt. Bon. Le grand public retient de ce débat. Et en fait, d'abord, je dirais, la personnalité de BHL, faite d'un mélange d'audace, voire d'aplomb, la fougue, l'irrévérence élégante, la chemise blanche, déjà, qu'il va porter éternellement comme une marque de fabrique. L'audace de ces nouveaux philosophes qui prétendent tourner la page du marxisme et du gauchisme au nom de la lutte antitotalitaire, qui font le procès des mauvais maîtres, des philosophes qui ont fourvoyé la jeunesse dans les années 68. Dans la foulée de cette émission, les ouvrages de Bernard-Henri Lévy, donc La barbarie à visage humain, et de Glucksmann, Les maîtres penseurs, vont s'arracher dans les librairies, un peu de la même façon que l'archipel du Goulag était devenu un phénomène de librairie après le passage de Solzhenitsyn dans l'émission de Bernard Pivot. Cette émission apostrophe, j'ouvre une parenthèse, mais elle est importante, a été créée par Bernard Pivot en janvier 1975. Ce n'est pas la première émission littéraire à la télévision. Avant elle, il y avait des émissions comme Lecture pour tous, à la ORTF, entre 1953 et 1968. Pivot lui-même avait déjà créé un premier magazine littéraire télévisé en 1973 sur la première chaîne, sous le titre Ouvrez les guillemets. Mais Apostrophe sera le grand succès de Pivot et la plus connue des émissions littéraires entre 1975 et 1990, date à laquelle Pivot l'abandonne pour un magazine culturel plus éclectique qui s'appelle Bouillon de culture. Diffusé chaque vendredi à 1 heure de grande écoute, Apostrophe fait connaître au grand public des centaines d'écrivains, de penseurs, de savants, d'intellectuels, dont elle contribue à établir les cotes sur l'échelle de l'audimat et des ventes. Passée chez Pivot, durant toute cette décennie 80, c'est une forme de reconnaissance désirée par les attachés de presse des maisons d'édition, sinon par les auteurs eux-mêmes, qui savent que les ventes en librairie s'en ressentent presque immédiatement. À la fin des années 70, avec une audience moyenne de 10%, et parfois plus, en fonction des personnalités invitées, le rôle prescripteur de l'émission est indéniable. Et cela fait de Bernard Pivot, comme on a pu l'appeler, le pape des lettres françaises. C'est ce rôle que Régis Debray, de nouveau lui, va dénoncer au cours d'une conférence qu'il donne à Montréal en octobre 1982, où il accuse l'animateur de télévision d'exercer, je le cite, une véritable dictature sur le marché du livre. Il dénonce l'arbitraire d'un seul homme. Pivot ne répond pas à cette mise en cause, mais en fait il avait déjà, d'une façon, répondu par avance dans un entretien qu'il avait donné au journal Le Quotidien de Paris en 1975, où il avait dit que la télévision n'est pas faite pour les intellectuels, ils ont leurs revues, leurs journaux, la télévision est faite pour le grand public. Et lui-même ne se prenait pas d'ailleurs pour un intellectuel, mais pour simplement un animateur du débat. Pivot tenait avec une sorte de bonhomie pateline son rôle de monsieur loyal domptant les grands faux intellectuels, mais l'émission était organisée de telle façon, jusque dans la manière dont étaient disposés les invités, que l'on peut voir, que vous retrouvez sur les archives de l'INA ou sur certaines vidéos qui ont été mises sur YouTube, vous voyez que les invités sont disposés face à face ou côte à côte et que les débats étaient parfois très vifs dans cette émission. Pivot ne caressait pas forcément ses invités dans le sens du poil, et les invités eux-mêmes d'ailleurs parfois étaient en discussion assez vive les uns avec les autres. C'est une émission qui avait une bonne tenue générale, mais qui annonce la culture du clash qui sera celle de beaucoup de talk-shows par la suite. Ce qui a changé, me semble-t-il, entre les années 80 et aujourd'hui, outre la politesse et la déférence que le journaliste devait malgré tout à ces grandes figures intellectuelles, et que l'on ne retrouve plus guère aujourd'hui sur les plateaux, c'est que les émissions littéraires avaient, notamment celle-ci, avait vraiment une audience et était placée à des heures de grande écoute. Aujourd'hui, la plupart des émissions littéraires ont disparu de la grille des programmes ou ont été reléguées à des heures où peu de monde les regarde ou sur des chaînes thématiques à faible audience. Aucune n'approche la puissance qui a été celle d'Apostrophe au cours de ces années 70-80. Donc, pour terminer là-dessus, la période est marqué à la fois par le triomphe de la figure de l'intellectuel expert sur le modèle anglo-saxon ou de l'intellectuel spécifique, selon l'expression proposée par Michel Foucault, qui l'opposait à l'intellectuel universel type Jean-Paul Sartre, et caractérisé également par l'entrée des intellectuels en cycle médiatique, pour reprendre cette fois une expression de Régis Debray. L'intellectuel partisan, encarté ou compagnon de route, disparaît ou tend à disparaître. Ce qui disparaît aussi, c'est ce que remarque François Stagliano dans son livre, c'est la figure des intellectuels grands écrivains, capables d'exercer un magistère littéraire, autant artistique autant que moral, des intellectuels comme Sartre, Camus ou Simone de Beauvoir. Une forme de décrue ou de reflux idéologique, de scepticisme généralisé qui définit un paysage inédit dans lequel les intellectuels engagés sur tous les fronts ne sont plus de saison, en quelque sorte. Ce qui est aujourd'hui, enfin ce qui apparaît dans les années 80 comme étant vraiment la nouvelle figure de l'intellectuel, ce sont ces intellectuels qui opèrent dans des secteurs déterminés, dans des points précis où les situent leurs conditions de travail et de vie, qui s'expriment sur le logement, sur l'hôpital, sur le laboratoire, sur l'université, sur les rapports familiaux ou sexuels, sur la prison. Donc une forme de spécialisation des engagements qui est homologue d'une certaine façon à la spécialisation des savoirs. Gide, Sartre, Camus étaient des intellectuels universels, mais aussi des amateurs au sens noble du terme. Ces figures d'intellectuels généralistes disparaissent, ou en tout cas ont tendance à disparaître. On peut en discuter selon certains cas, mais en tout cas la notion d'intellectuel est redéfinie clairement dans ces années 80. Et bon nombre de livres ou d'essais qui paraissent à cette époque diagnostiquent une forme de déclin ou de disparition de l'intellectuel à la française. J'arrête là ce deuxième enregistrement pour ce cours, donc pour ce cours correspondant à la séance 10 de l'histoire culturelle de l'Occident. Je vais en entamer un troisième, qui va être consacré à ma deuxième partie. Donc, après avoir examiné la sphère intellectuelle, je vais décrire les mondes de l'art dans ces années 70-80.